Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Bank pour votre compte bancaire.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certains événements de portée internationale attirent l'attention et les commentaires sur des problématiques. Ces rendez-vous exceptionnels contribuent à une prise de conscience et permettent parfois de changer les regards. C'est ce qui s'est passé à la fin de l'été 2024 à l'occasion des Jeux paralympiques de Paris. Performance, émotion, visibilité, engagement, le handicap est devenu le temps des 11 jours de compétition. Une condition comme une autre, à côté du dépassement de soi et de l'inspiration. Aujourd'hui, passé cette parenthèse, les personnes en situation de handicap renouent avec un quotidien qui reste encore trop souvent freiné, semé d'obstacles. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la santé. Problème d'accessibilité, ce qui peut pousser un certain nombre de patients en situation de handicap à renoncer à consulter, à se faire soigner. Problème financier, d'accompagnement, de temps. Problème aussi de formation des professionnels de santé, avec pour conséquence très concrète des diagnostics plus tardifs, une perte de chance. Avec nos invités, nous allons donc parler des pistes, des initiatives et des défis pour améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap, pour faire reculer les inégalités. Pour une meilleure prise en charge globale et pas simplement se concentrer sur le seul handicap au détriment du suivi des soins de premier recours comme l'ophtalmologie, la gynécologie, les soins dentaires, mieux soigner ces personnes en situation de handicap. Trois invités avec nous en studio. Professeur François Genet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de service de l'unité parasport santé à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, professeur à l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines, également président de l'Institut de santé parasport connecté. Association de patients. Avec nous, Awad Ramé. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Fondation internationale Thierno et Mariam et vous intervenez en Guinée, au Burkina Faso depuis 2003 avec des initiatives dédiées aux enfants en situation de handicap, la promotion également des droits des femmes. On va aussi vous donner la parole. Jackie Vagnoni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération Paralysie Cérébrale France.
Priorité santé sur RFI.
J'ai cité à l'instant, professeur Genet, la parenthèse des Jeux paralympiques dans laquelle vous êtes particulièrement investi. Un intérêt populaire réel, un succès collectif et la question légitime de l'héritage. On l'a posé même pendant ces Jeux. Les suites de cet événement sportif pour la société, surtout pour les personnes en situation de handicap, suite dans le domaine de la santé, c'est notre sujet du jour. Professeur, en particulier dans le domaine de l'accès aux soins, il y a eu ce changement de regard qui a déjà été très important.
Il est clair que l'héritage principal des Jeux paralympiques de Paris 2024 est la prise de conscience de la population générale, des capacités qu'ont cette population à être finalement des citoyens comme les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a été un formidable changement de vision qu'a la population générale, plus finalement que les personnes en situation de handicap elles-mêmes, sur la capacité qu'a cette population à être des citoyens comme les autres.
Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément eu des solutions, loin de là, mais il y a eu d'abord une prise de conscience collective qu'il fallait faire quelque chose.
Je crois que c'est un levier extrêmement important et sur lequel il faut vraiment agir très très vite parce qu'on peut oublier facilement les retombées des Jeux et... Ce d'autant que la situation politique, économique ne va pas en faveur du développement de tout ce qu'on avait prévu pour cet héritage. Et là, on a un levier qui est important et qui est du coup un levier collectif et qui revient finalement aux associations et aux individus à porter ce message et à développer de nouvelles solutions.
Cet aspect collectif qui reste d'actualité. Est-ce qu'il y a des indicateurs, pour bien cerner notre sujet du jour, des indicateurs, professeur Genet, qui permettent de savoir quelle proportion de personnes handicapées renoncent aux soins médicaux ? Tous ne renoncent pas, mais en tout cas, il y a des vrais freins.
Effectivement. Aujourd'hui, les personnes qui vivent avec un handicap sont très bien suivies pour les conséquences du handicap, c'est-à-dire des problématiques de santé qui sont liées au handicap.
Et me permets de vous interrompre en France, parce qu'on parle de la situation
en France. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et on voit que cette population, finalement, est bien protégée pour les conséquences du handicap. Et ça, ça induit quoi? Ben, ça induit une augmentation de l'espérance de vie. Et aujourd'hui, on voit que toute cette population a une espérance de vie qui se rapproche de celle de la population générale. Et du coup, on voit dans l'analyse de la littérature internationale là qu'ils développent les mêmes comorbidités, les mêmes pathologies, les mêmes facteurs de risque que la population générale, sauf qu'ils arrivent plus tôt. Et que les conséquences induisent évidemment des complications surajoutées, ce qu'on appelle le surhandicap. Et quand on est paraplégique, qu'on vieillit, qu'on est obèse et sédentaire et qu'on fait un AVC ou un infarctus, bah forcément, la vie est plus compliquée. Et cela induit, du coup, une réponse de la société qui doit être encore plus importante dans la prévention de l'apparition de ces pathologies chroniques.
Alors précisément, et là ça joue aussi le sport, hein, c'est votre spécialité, on va voir pendant cette émission quels sont ces principaux motifs de renoncement, accès aux soins avec... Il faut bien le reconnaître, une forme de discrimination avec votre association, Jackie Vagnoni, la Fédération Paralysie Cérébrale France. Vous parlez, vous dénoncez une double peine. Pourquoi ?
Oui, une double peine, parce que effectivement, quand on est en situation de handicap, le professeur Genève vient de le dire, c'est que en fait, il y a des spécificités. Et bien entendu, déjà le Français en situation de handicap, il rencontre des difficultés concernant les déserts médicaux. Il n'y a pas la même offre partout en France. Il n'y a pas des praticiens formés partout en France, dans tous les départements. Donc, c'est une difficulté, y compris lorsqu'il y a quand même des droits. Les droits sont ouverts, mais il n'y a pas de réponse. Il peut y avoir aussi d'autres facteurs. Hein. C'est l'inaccessibilité des cabinets médicaux. C'est-à-dire, tout simplement, je suis en fauteuil, je veux aller voir un médecin traitant, il n'y a pas d'ascenseur ou il y a quelques marches avant d'atteindre l'ascenseur. Et là aussi, c'est un facteur, j'allais dire, de renoncement aux soins. Je pourrais en dire d'autres, mais effectivement, s'accumule un ensemble d'événements, d'éléments structurants qui ne permettent pas à la personne de pouvoir avoir les soins dont elle a besoin. Je pourrais vous dire aussi la perte de chance concernant une maladie. Il n'y a pas de prévention, peu de prévention. Et du coup, cette maladie où il y avait une petite tumeur qui faisait 2 mm, ben finalement, elle fait 3 cm.
Alors, expérience personnelle pour vous, hein, Jackie Vagnoni, qui explique cet engagement associatif parce qu'il y a cette dimension collective qui est essentielle.
Oui, alors moi, j'ai 3 enfants. Un de mes fils vit avec une paralysie cérébrale suite à une naissance prématurée, 6 mois et demi. Et depuis, il a 36 ans, 37 ans aujourd'hui. Et depuis l'âge de 10 mois, il a des soins de rééducation, notamment de kinésithérapie.
Ça veut dire que ce parcours d'accompagnant, d'aidant, c'est votre quotidien?
C'est mon quotidien. Alors, il travaille à temps partiel, dans un atelier protégé. Mais effectivement, alors là, du coup, la famille joue un rôle important, parce que quand on est face aux médecins, aux praticiens, qui n'a pas toujours les connaissances sur le handicap, ben forcément, il s'adresse à la famille pour savoir qu'est-ce qu'on en pense.
C'est un travail d'équipe.
Voilà.
Avec nos deux invités précédents, c'est vrai qu'on évoque en particulier la situation en France. Avec vous, Awa Dramé, on ouvre le débat sur l'Afrique de l'Ouest, notamment dans les deux pays où agit votre association, la Guinée, le Burkina Faso. Alors là, bien évidemment, il est question aussi d'accès aux soins, parce que ce sont les mêmes problématiques centrales, la même colonne vertébrale, mais il y a aussi l'obstacle majeur de la rareté des structures pour tout le monde.
Oui, effectivement. Fitima, donc la fondation, a ouvert 2 centres, un à Conakry, un à Ouagadougou. Eh bien, nous sommes les seuls à proposer dans ces deux pays, à ma connaissance en tout cas, une prise en charge globale. J'entends par prise en charge globale la prise en charge médicale, l'accompagnement paramédical, l'accompagnement socio-éducatif et même l'insertion sociale. Donc voilà, il y a la rareté des structures et il y a une autre problématique, c'est les pesanteurs socioculturelles.
C'est-à-dire le regard de la société.
Tout à fait, dû à la méconnaissance aussi et dans un environnement où ce qui n'est pas expliqué relève du paranormal. Et du coup, quand vous vous dites c'est la fatalité, il n'y a rien à faire, vous cherchez pas de solution. Donc dans notre action quotidienne, nous faisons beaucoup de sensibilisation afin que les parents, déjà, se disent il y a peut-être quelque chose à faire. Déjà, pour nous, c'est la première étape. Et quand cette prise en, de conscience est faite, surtout l'information est donnée. Là, il y a on a mis en place toute une panoplie d'outils pour sensibiliser en français, mais aussi en langue nationale, parce que c'est très important afin que le message soit vraiment compris. Et c'est seulement après cette première étape que les parents se disent, on va aller voir si on peut trouver une solution.
Professeur Genet, il y a des études, vous le disiez tout à l'heure, qui prennent un petit peu le pouls du ressenti aussi des personnes en situation de handicap. En France, récemment, il y a eu cette expression, les personnes handicapées se sentent en mauvaise santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement, même s'il peut y avoir un accompagnement, vous l'avez dit tout à l'heure, ponctuel, lié à la nature stricte du handicap, eh bien les gens, finalement, ont ce ressenti, ne se sentent pas bien soignés.
En effet, dans mon service, on mène une petite enquête. Toute personne en situation de handicap qui arrive pour se faire opérer, puisque j'ai un service médico-chirurgical, on leur pose la question, la dernière fois que vous avez vu un ophtalmo, la dernière fois que vous avez vu un dentiste, la dernière fois que vous avez participé à une campagne de dépistage du cancer du côlon, le dernier frottis, la dernière mammographie, etc. etc. Et on s'aperçoit que là, c'est Non, je fais pas. Alors qu'ils ont accès à des suivis ultra sophistiqués dans le cadre du suivi de leur handicap, mais que finalement, ce qui correspond finalement à la pathologie chronique de tout le monde, ils n'y ont pas accès. Et cette perception, ils l'ont en eux, comme quoi c'est une différence qu'ils ont par rapport à la population générale, dans le sens où ils n'ont pas accès à cette prévention primaire et donc que leur santé est très endommagée, négligée par rapport à la population générale.
Alors, Jackie Vagnoni, votre association Paralysie Cérébrale France décrit le parcours du combattant et notamment certaines réticences du côté des soignants, des médecins, pour des consultations qui peuvent forcément nécessiter une approche différente.
Ben oui, si vous voulez, quand vous connaissez pas le handicap, la pathologie du patient qui est en face de vous, il peut y avoir une forme d'évitement, on va le dire comme ça, de peur de pas être à la hauteur, de pas amener le bon conseil, le bon soin. Donc voilà, c'est forcément, j'allais dire, ça crée des difficultés dans l'approche de soins.
Est-ce que vous avez constaté du côté des patients handicapés qu'il y avait justement des sortes de réseaux qui s'instituaient en disant va voir tel médecin parce que lui, on va dire, il est bon avec les personnes en fauteuil, lui il est bon avec les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, lui il est bon avec ci ou ça.
Alors je ne pourrais pas faire cette ce témoignage, ouais. Voilà, cette cartographie. Forcément, sur un territoire, les parents, les aidants parlent entre eux et savent que un tel, alors s'est formé sur le terrain,
mais a développé
une compétence et du coup, elle est vite identifiée. Ce qui se passe aussi, ce que je voudrais dire, c'est que il faut aussi arriver à formaliser des consultations plus longues pour les patients en situation de handicap.
Ce facteur du temps, c'est essentiel.
Ça, c'est essentiel, parce que là, on parlait d'une mammographie. Vous rencontrez une personne, une femme en situation de handicap qui n'a jamais fait de mammographie, si vous n'allez pas la faire rentrer dans un cabinet et puis faire la mammographie comme ça. Peut-être que la première fois, rien ne se passera. Il faudra lui expliquer, lui réexpliquer, peut-être faire même une mammographie à blanc, si je puis dire, pour ensuite faire une vraie mammographie. Donc là, il y a des choses qui jouent, je veux dire, en termes d'organisation et en termes de prise en compte de ce temps supplémentaire.
Professeur François Genet, ça veut dire qu'il faut un effort particulier en termes non seulement de formation, mais aussi, on va dire, de formation continue.
Mais bien sûr, je crois que le témoignage qui vient de nous être donné est criant de vérité. Aujourd'hui, prendre en charge une personne en situation de handicap dans un cabinet libéral ou dans une clinique percute le modèle économique. C'est-à-dire que d'un seul coup, alors que vous prenez des gens tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes, d'un seul coup, il faut une heure. Et non seulement il faut une heure, mais en plus, il faut de l'aide humaine pour aider au transfert, pour gérer le sondage au dernier moment, etc. etc. Et notre modèle de santé n'est pas armé pour faire ça. Du coup, ça concentre certains services qui sont prêts à jouer le jeu, qui se retrouvent d'un seul coup débordés et qui, du coup, ça percute leur modèle de fonctionnement. Et donc, on ne peut pas envisager une prise en charge des personnes en situation de handicap sans augmenter le personnel, et c'est là où on percute en fait, notre modèle économique en santé.
Et à Ouadramé, vous, en Guinée, justement, vous avez monté un centre dédié avec de la formation ?
Alors, au niveau du centre de la formation de thérapeutes.
Ou des thérapeutes.
Alors ça, c'est le troisième volet d'activité de FITIMA, à côté du volet handicap et du volet promotion des droits des femmes. Et c'est venu juste d'un constat. C'est vrai que, voilà, ici en France, effectivement, on dit, voilà, il nous manque du personnel, etc. Là, c'est une autre dimension.
Il n'y a pas.
Il y a très peu de médecins. Les médecins ne sont quelquefois pas formés à ces pathologies-là. Et de toute façon, ils n'ont pas le temps. Ils sont débordés parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ensuite, nous manquons de paramédicaux parce qu'il n'y a pas d'école de formation de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, etc. Donc l'idée est venue petit à petit de se dire, mais pourquoi ne pas les former? Et donc il y a 4-5 ans, j'ai réfléchi à la question, j'en ai parlé à d'autres, et finalement on a monté un institut de formation, c'est le premier institut de formation de kinésithérapeute en Guinée depuis 2022, nous avons eu les autorisations en 2022. Alors nous commençons par la filière kinésithérapie, mais nous aimerions bien petit à petit pouvoir former des ergothérapeutes et des, pourquoi pas des orthophonistes, parce que c'est quand même le trio essentiel. Et donc, à côté de la filière kinésithérapie, nous avons mis en place une filière aussi d'AVS. C'est quelque chose qui n'existe absolument pas.
Donc, ce sont les assistantes en milieu scolaire.
Carrément assistantes de vie scolaire et sociale pour accompagner un petit peu. Si on veut faire de l'inclusion scolaire, il faut absolument des aides. Et c'est quelque chose de nouveau, d'innovant. Donc, il a fallu d'abord convaincre les autorités pour pouvoir avoir les autorisations.
J'imagine qu'il y a des auditeurs qui sont à l'écoute là et qui se disent, mais comment les parents, ils payent tout ça? Parce que ça, c'est une question concrète, mais essentielle.
Oula. Alors, nous, au niveau du centre, il faut savoir que la prise en charge d'un enfant en situation de handicap dans notre centre, c'est entre 1200 et 1500 euros par an. Ça, c'est le minimum. Et vous ne pouvez pas demander ces montants-là à une famille. Donc, nous demandons aux familles une participation d'à peu près 20% du coût. Il faut savoir qu'il n'y a pas le système de sécurité sociale qui peut compenser. Donc, les trois quarts de montant, qu'est-ce que je fais? Je cherche des subventions, des parrains, des marraines, des dons, etc. pour qu'on puisse
compenser
et surtout prendre en charge ces enfants-là. Donc, non seulement il y a ce côté ressources financières, mais aussi les ressources humaines, puisque justement nous manquons cruellement de paramédicaux. Donc l'institut qu'on a mis en place, on espère en tout cas, va pouvoir répondre un tant soit peu à ce manque de paramédicaux.
Et on va voir qu'avoir accès à des structures dédiées, ben, ça change absolument tout avec ce reportage.
RFI à Paris, 89 FM.
Et nous nous rendons à l'Institut de réadaptation visuelle. C'est dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Louis, à Paris donc, que vient d'ouvrir ce service dédié aux personnes déficientes visuelles. Stratégie complète adaptée, conçue par le célèbre hôpital des 15-20, également l'association Valentin Ahuy, pour répondre aux besoins des patients. Et notre reporter Raphaël Constant y a rencontré Xavier. Il a 77 ans, il est atteint d'une atrophie maculaire extensive. Elle l'a retrouvé devant les portes automatiques coulissantes de l'Institut, juste à l'heure pour sa séance de psychomotricité.
Bonjour.
C'est Michel.
Et là, je ne vois pas qui c'est.
C'est Laetitia.
Laetitia. Donc, vous avez rendez-vous ici. Vous allez pouvoir monter directement au premier étage.
Merci. C'est là. De mémoire, dans l'ascenseur, il n'y a pas trop de boutons, donc on ne peut pas se planter. Hop.
Donc, les chiffres de l'ascenseur sont écrits en braille dessus. Et on arrive dans la salle d'attente.
Alors, j'ai commencé le suivi vers le 10 janvier. Toute une série de bilans. J'ai vu un monde fou de personnes, tous super. Chacun sait ce que fait l'autre. Et ça donne confiance. Et puis, ça donne envie de continuer, quoi.
Bonjour, c'est Félicie.
Bonjour, Félicie.
Préférez le coude ou l'épaule?
Oh, l'épaule, si ça
l'épaule,
vous
on va à droite. On va aller tout au bout du couloir. On est l'avant-dernière porte à gauche.
D'accord.
Félicie, je vous ai vu d'abord tendre votre bras.
Pour la technique de guider, pour qu'ensuite on puisse se déplacer plus aisément. Je vous en prie. Tout droit, il y aura la chaise. Elle est un peu loin du bureau.
Je choisis celle qui est le plus loin de la fenêtre. Et je vais demander à Félicie si elle veut bien baisser les rideaux. Ce qui est une lumière qui peut sembler normale pour quelqu'un d'autre, mais qui est un peu agressif pour moi, quoi. Oui. C'est à bonne hauteur.
Aujourd'hui, on va devoir faire des gestes avec nos mains. D'accord. Si vous ne voyez pas mes mains, vous pouvez les toucher, il n'y a pas de souci.
Oui.
Ouais.
Ah.
Félicie, vous avez une main avec le poing fermé, l'autre main tendue vers Xavier, donc il doit reproduire les gestes que vous faites.
C'est ce qu'on appelle l'UMG, et c'est pour évaluer la motricité des doigts et des gestes. Je change ? Parfait, ça va ?
Ça va.
Là, ça va être un peu plus les bras. Parfait, trop fort. Alors là, je mets mes deux mains. Celui-là est un peu compliqué. Vous avez le droit de toucher, hein, toujours.
J'arrive pas à définir. Les autres doigts sont à l'intérieur. Mais il y a les deux poignets sont tournés chacun dans un sens, en fait.
Ouais. Presque comme l'autre, mais avec les mains dans des sens différents. Il nous reste juste les fonctions exécutives, alors. On va prendre une petite chorégraphie qu'on va faire sur la table.
Oui.
Donc en premier, on va mettre la paume de la main contre la table. Ensuite, la tranche. Et on va fermer le poing. Paume, tranche, vous avez oublié la tranche. Paume, tranche, point, à vous. Ouais, c'est ça.
Félicie, à quoi ça sert tous ces exercices que vous faites faire à Xavier ?
On évalue différentes fonctions. Donc on a évalué l'équilibre, l'espace. On évalue aussi tout ce qui est le vécu du corps et flexibilité mentale, l'attention, pour essayer de voir si le fonctionnement psychomoteur est altéré par la déficience visuelle qui s'est installée, pour ensuite qu'on puisse axer la prise en charge autour de ces fonctions-là. Travailler tout ce qui va être, par exemple, la motricité fine pour ensuite aider les ergothérapeutes à travailler la vie quotidienne. Travailler les coordinations globales pour ensuite aider les instructeurs en locomotion et le patient, évidemment, dans sa gestion de l'espace et dans ses déplacements. Voilà. En objectif, la dernière fois, si mes souvenirs sont bons, on s'était dit qu'on allait essayer de se trouver des petites techniques pour gérer la douleur.
Oui, ce à quoi fait référence Félicie, c'est que j'ai de très gros problèmes rhumato depuis un paquet d'années et que je suis aussi suivi sans de la douleur. Ouais, ces deux handicaps, c'est deux choses vachement lourdes, quoi.
Et ces deux pathologies, est-ce qu'elles sont liées ?
Je me rends compte qu'effectivement, pour que je regarde devant, il faut que je regarde à côté. Parfois, c'est pas les yeux que je fais bouger, c'est la tête. Quand je suis devant un ordi, je vous dis pas, c'est une gymnastique incroyable. Dans la vie quotidienne, c'est toujours une gymnastique. Donc, en fait, il y a un vrai rapport. Je l'avais pas noté. Alors, ça n'a pas un rapport avec les problèmes rhumato eux-mêmes. Mais c'est vrai que ça peut entraîner le fait de mal voir des postures. Par exemple, pour ouvrir une serrure, il faut que je me penche et que je mette l'œil sur la serrure. Je vous dis pas le cirque que c'est de brancher une prise.
En tout cas, si j'ai compris, vous parliez aussi de le manque de perception de la distance entre vous et autre chose.
Le travail fait avec l'orthoptiste, elle m'a permis de comprendre exactement ce qui se passe, c'est-à-dire le coude. Quand je regarde devant moi, c'est ce qui est à côté que je vois. J'ai une vision périphérique, mais pas de vision centrale. C'est important de verbaliser pour comprendre. Ici, on met plein de mots sur tout et c'est vraiment utile, quoi.
Mais oui, l'idée, c'est de pouvoir comprendre son fonctionnement pour pouvoir encore mieux fonctionner après.
C'est un changement de vie radical, quoi. C'est vraiment très difficile de pas arriver à faire quelque chose qu'on a réussi à faire pendant des dizaines d'années. Il y a leur patience à eux qui permettent de se dire, mais si vous pouvez arriver à le faire, et en faisant gaffe, on y arrive, et effectivement, à moins se prendre la tête, à moins s'énerver, et puis peut-être aussi être moins peiné.
Et Xavier, qu'est-ce que ça vous apporte, le suivi ici que vous avez, qu'il soit médical ou médico-social ?
Ça change tellement de choses parce que ça me permet de me débrouiller avec la vie quotidienne. Et puis, probablement, oui, ma place en tant que bonhomme, quoi. C'est-à-dire d'arriver à dire tranquillement, ok, je vois pas bien. C'est comme ça. Il y a un médecin ophtalmo, il y a une assistante sociale, il y a une psychologue. Ce qui est intéressant ici, c'est que les professionnels se parlent entre eux. Ils prennent le temps. C'est pas, il y a un problème, on va y répondre. Il y a une capacité à tout mettre en lien qui me plaît bien. Et l'espoir.
Reportage de Raphaël Constant à l'hôpital Saint-Louis. Ce mot, le temps, la patience, professeur François Genet, on peut dire que c'est l'ingrédient central ?
Oui, on le voit bien au travers de ce reportage et qui est extrêmement bien, qu'on pourrait en fait dupliquer à tous les types de handicap. On voit bien qu'il faut une prise en charge singulière. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui est très freinant dans le développement de la prise en charge des personnes en situation de handicap. C'est que deux personnes sont tout de suite différentes. Et vous voyez, quand il a, cette personne a réussi à nous expliquer qu'il a des problèmes rhumatologiques et des problèmes visuels, mais que ces problèmes rhumatologiques ont plus d'impact parce qu'il ne voit pas bien. Alors que nous, on se dit, mais quel lien peut-il y avoir entre des problèmes articulaires et des problèmes visuels? Et on voit bien que l'incapacité, en fait, se rajoute de l'incapacité et que les symptômes ne s'ajoutent pas, ils se multiplient. Et il faut que le monde de la santé prenne conscience de ça, parce qu'effectivement, on le voit bien, et là, c'était très, très clair, que cette population a besoin d'une prise en charge qui lui est singulière et qui, du coup, justifie beaucoup, beaucoup de temps de la part des professionnels de santé.
On va poursuivre notre échange, tous les trois, si vous le voulez bien, avec d'autres témoignages sur les difficultés de prise en charge, notamment dans les pays du Sud. Prendre d'autres, un auditeur en ligne sera juste après. Mira avec Des Fleurs dans Priorité Santé sur RFI.
Pas d'after party, j'ai pris le VTC, les autres sont dans ma tête, je prends pas souvent parti pour moi-même. J'aime bien la couleur de tes yeux dans le fond des miens quand y'a plus la douleur posée en travers du chemin. J'aime bien la couleur de ma peine au creux de ta bouche quand on en fait des fleurs que sur nos bouquets on se
Priorité Santé sur RFI, on parle aujourd'hui de l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap, identifier les freins, dessiner des pistes pour lever les différents obstacles, toujours en compagnie de nos trois invités, le président de la Fédération Paralysie Cérébrale France, Jackie Vagnoni. On a entendu tout à l'heure cette structure dédiée sur le handicap visuel, bien sûr, mise en place au sein d'une grande structure de soins à Paris. Vous vouliez réagir à ce sujet ?
Oui, juste deux ou trois mots. Dire qu'on a parlé de temps, de patience, faut parler aussi de connaissance, parce que là, on voit bien qu'il y a de la connaissance autour de la pathologie, des besoins de la personne. Il faut parler aussi, pour l'appareil cérébral, mais pas que, d'équipe pluridisciplinaire. On voit bien que c'est pas un médecin, un praticien, c'est une équipe. Et parfois, c'est des aires médicaux, elles font que l'équipe, elle n'est pas complète. Donc ça, c'est le sujet. Et puis, on voit aussi que, pourquoi on parle de... On a remplacé un peu handicap par situation de handicap. On voit bien que quand la personne, handicapée, en face d'elle, quelqu'un qui connaît sa pathologie, je vais dire, elle apporte le détail qui manquait à sa situation de handicap. Mmh. Et le handicap, il n'a pas changé. Par contre, sa situation de citoyen, d'homme, de femme,
etc. Quand il dit le bonhomme, c'est-à-dire que c'est le ressenti,
voilà,
le bien-être.
Voilà, tout a changé, quoi.
Tout a changé. Awad Ramé, présidente de la Fondation internationale Tierno et Mariam, vous intervenez en Guinée, au Burkina. Vous aussi, vous voulez réagir à ce reportage?
Oui, c'est surtout la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'un seul médecin ou un seul thérapeute ne peut pas faire grand-chose. Et quand on parle de handicap, bien sûr, il y a tout l'aspect médical, mais il y a l'aspect paramédical, parce que ce sont les paramédicaux qui interviennent au quotidien. Mais il y a tout cet aspect socio-éducatif, parce que si vous laissez de côté l'éducation, eh bien, vous n'avancez pas. Mmh. Et bien sûr, on a parlé du sport, absolument nécessaire de développer le handisport. Nous faisons aussi dans nos centres du théâtre, de la musicothérapie. Je veux dire, toutes ces personnes qui interviennent sont nécessaires. Donc, la pluridisciplinarité.
Il la faut en santé, mais aussi en activité, qui ne sont pas du tout accessoires. Mmh. J'imagine que pour l'accompagnement chez vous des enfants en situation de handicap, les demandes dépassent de loin vos possibilités.
Oh oui. Mmh. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Il faut savoir qu'actuellement, dans le centre de Conakry, bon, à Malang, on accueille quand même 300 personnes. Ouais. C'est énorme. Mmh. Au Burkina, à peu près 200 personnes. Et par exemple, l'aspect socio-éducatif, nous ne pouvons prendre dans notre petit centre à Conakry que 40 enfants.
J'imagine
et ils sont déjà
à
l'étroit. Nous avons des listes d'attente. Et alors, nous faisons appel au pouvoir public pour qu'il nous donne des locaux. Nous avons besoin de locaux pour travailler. Mmh. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu gain de cause. Mais on pourrait faire beaucoup mieux avec un peu plus d'espace et un peu plus de ressources humaines formées.
Peut-être qu'il y a des gens qui écouteront à Conakry, que
on
ça
espère,
va intéresser.
En tout cas, c'est lancé.
Professeur François Jeunet, je redonne juste votre titre et fonction. Hein. Chef de service de l'unité parasport santé à l'hôpital Raymond Poincaré de Gare, je vous en prie.
On oublie une dimension qui est l'appareillage. Les personnes en situation de handicap ont besoin d'appareillage, que ce soit du fauteuil roulant, orthèse, prothèse, et tous ces dispositifs-là. Et là, je voulais saluer un peu l'ingéniosité que peuvent avoir tous nos amis africains, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique de l'Ouest. Moi, je travaille dans un laboratoire, on développe des exosquelettes avec des tas de trucs électroniques,
high-tech,
etc. High-tech. Et quand on va visiter ces centres dans ces pays-là, on voit des dispositifs d'une ingéniosité mais extraordinaire, qui ont été extrêmement bien réfléchis. Mmh. Et donc, la compétence, elle n'est pas que liée à la technologie, etc. Elle est surtout liée au bon sens. Et parfois, ça nous donne des idées pour développer des choses, des nouveaux dispositifs dans nos laboratoires. Et il y a de la compétence dans ces pays-là. Il ne faut pas croire que, voilà, il y a une espèce de décalage. Il y a une compétence du savoir-faire. Il y a une vision qui est extrêmement intéressante sur l'assistance au handicap. Et je voulais juste saluer en vous écoutant.
Est-ce que vous avez le sentiment, professeur Jeunet, que la nature du handicap conditionne la nature de l'obstacle, ou c'est vraiment quelque chose, un frein global pour les populations qui présentent d'ailleurs une différence permanente, que ce soit physique ou psychique ?
Pour moi, il ne peut pas y avoir de réponse unique sur le handicap. Je veux dire, l'idée que une loi puisse descendre d'en haut et régler toutes les problématiques du handicap, on sait très bien, nous qui travaillons dans le monde du handicap, que c'est une population d'une telle hétérogénéité, avec des problématiques qui leur sont toutes spécifiques en fonction des types de handicap, que la problématique dite d'inclusion, elle ne peut se régler quasiment presque qu'au cas par cas, et que il faut partir, et ça nos outils aujourd'hui nous le permettent, de partir de l'individu pour remonter à une solution globale qui puisse évidemment intéresser un maximum de population, mais pas partir d'en haut en se disant on a une population hétérogène qu'on va inclure avec un coup de baguette magique.
Déléguer les moyens et les compétences. Jacques Vagnoni, vous vouliez réagir sur ce sujet?
Juste dire que la paralysie cérébrale est un handicap moteur. Mmh. Pour autant, de plus en plus, beaucoup de personnes ont des troubles associés à ce handicap moteur. Troubles de la communication, troubles des apprentissages, troubles de l'attention, troubles cognitifs, troubles sensoriels. Et effectivement, à chaque fois, c'est un diagnostic, c'est un tableau qui est complètement singulier. Mmh. Et parfois même, le trouble associé, il est plus fort que le trouble moteur. Mmh. On pourrait parler de l'épilepsie, par exemple. Et donc, du coup,
c'est systémique.
C'est systémique, et du coup, mais je voulais juste dire aussi, mais finalement, professeur Genet me l'a enlevé, c'est que dans l'idée des politiques publiques, du droit commun, juste du droit commun, ça a ses limites. Il faut bien qu'à un moment donné, la personne, elle se retrouve face à quelqu'un qui connaît sa pathologie, etc. Et là, il faut bien mailler le territoire de spécialiser, de manière spécialiste.
Précisément, Jacky Vagnoni, vous parlez du parcours du combattant pour les personnes en situation de handicap. Il y a des réponses. Le dispositif Handiconsult, c'est quoi, par exemple?
Alors, c'est un dispositif spécialisé où là, la personne, elle va pas voir chacun des spécialistes, hein, mais j'allais dire, dans un seul rendez-vous, on peut organiser, j'allais dire, l'intervention, enfin, je sais pas, du gynécologue, peut-être, je sais pas, du spécialiste des poumons. Et
c'est en train de se mailler sur le territoire.
Ah oui, alors, oui. Depuis longtemps. Hein, alors, je voudrais juste vous dire que je viens d'Annecy, de la Haute-Savoie, et que le premier Handiconsult, il a été expérimenté en Haute-Savoie. Et du coup, il se déploie alors, sous des formes diverses et variées. En Haute-Savoie, c'est un dispositif qui est au cœur de l'hôpital, mais ça peut être d'autres aménagements et d'autres implantations. Mais l'idée, c'est qu'en fait, quand la personne ne peut pas aller voir le praticien, c'est le praticien qui vient vers elle et ça marche très bien.
Alors, témoignage de difficultés de prise en charge, on a un message WhatsApp de Jeanne de Douala au Cameroun. Elle a 63 ans, elle a perdu l'usage de ses jambes il y a un peu plus de 2 ans, hernie discale, syndrome de la queue de cheval. Je me tourne vers vous, professeur. Syndrome de la queue de cheval, c'est quoi?
En fait, c'est une lésion de la colonne vertébrale qui impacte pas la moelle épinière, mais en dessous de la moelle épinière. La moelle épinière s'arrête à peu près au milieu du dos et en dessous, les nerfs qui vont au périnée et aux jambes descendent sous forme de fil. Et quand on la regarde à l'imagerie, ça ressemble à une queue de cheval, mais ça correspond à une paraplégie, en fait.
Alors, conclusion, incapacité de se lever. Jeanne explique qu'elle essaie d'assurer un maximum de soins toute seule, mais elle a quand même besoin de l'aide de ses enfants pour se mettre dans son fauteuil, pour aller aux toilettes. Et pour elle, aujourd'hui, eh bien, plus de séances de kiné à domicile. C'est trop difficile d'aller à l'hôpital, c'est ce qu'elle explique. La kiné qui venait faire ses séances à domicile a déménagé. Donc, ce qu'on entend, tout à l'heure, on disait évidemment, les soins primaires, on va dire que certains considèrent comme annexes, c'est compliqué. Mais pour elle, au Cameroun, y compris la réadaptation, trouver un praticien, c'est très loin d'être évident, même quand cette réadaptation est nécessaire au long cours. À Ouadramé, c'est une réalité aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap.
Tout à fait. Et quand on parlait tantôt de Handiconsult, nous avons essayé de mettre la consultation pluridisciplinaire, mais effectivement, c'est réunir au même endroit, donc dans nos centres, des praticiens. Plus les éducatrices, plus les kinés, plus les médecins, etc., qui veulent bien jouer le jeu. Et on essaye de faire ça une ou deux fois par an, avec beaucoup de difficultés pour pouvoir réunir tout ce monde-là, parce qu'on ne peut pas trouver ce genre de choses dans le système hospitalier.
Et c'est vrai que si tout à l'heure, avec nos autres invités, on pointait ce qu'on appelle en France des déserts médicaux, que dire en Afrique de l'Ouest, en dehors des capitales? On ne va pas dire que c'est le désert ou rien, mais on n'est pas loin. Hein.
Même dans les capitales.
Ouais. Hein.
Même dans les capitales.
Un spécialiste, donc, un praticien, c'est compliqué.
C'est très compliqué qu'il ait même le temps, du temps à consacrer à ces pathologies-là. Donc, vous voyez bien l'importance de former des thérapeutes. Donc, cette dame, si elle avait un kiné dans son quartier, probablement le kiné pourrait se déplacer, venir, parce qu'elle en a absolument besoin. On sait que dans ce cas de figure, il faut vraiment de la kiné quasiment au quotidien. Eh bien, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de thérapeutes, eh bien, ça la condamne comme ça à vivre une vie assez difficile. C'est pour ça qu'il est important de former des thérapeutes.
À Ouadramé, tout à l'heure, vous avez parlé de cette dimension culturelle. Il y a quelque chose aussi de très important à souligner, c'est le suivi à vie. Est-ce que vous constatez là aussi que c'est un obstacle pour des prises en charge, des familles qui disent « mais de toute façon, il ne va pas guérir, ça va être ça tout le temps, à quoi bon s'en occuper ?» Quand je dis ça, il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat.
C'est un constat. C'est un constat et c'est ce qui nous a amené, nous, à monter tout un arsenal de sensibilisation pour bien d'abord dire aux familles « ça ne va pas se guérir » par une baguette magique, que c'est pas comme le traitement du palu ou voilà d'une autre maladie classique entre guillemets. Eh bien, on essaie de leur expliquer que c'est au long cours et comme ça a un coût pour les familles, quelquefois, ils se disent, bon, ben voilà, cet enfant nous coûte trop cher.
On ne peut pas investir là-dessus.
On ne peut pas. Les familles abandonnent. Et 2 ou 3 ans après, nous revoyons l'enfant dans un état lamentable. Tout ça parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Mmh. Donc, notre combat, c'est aussi d'essayer de faire comprendre aux familles que c'est du long cours, que le suivi doit être sur le long cours, mais il y a ce gros obstacle financier qui est là, comme nous n'avons pas de subvention et que les familles n'ont pas les moyens d'eux, donc ça cause un gros problème. Mais nous comptons beaucoup sur les témoignages de ceux qui arrivent à suivre et nous les faisons intervenir dans des émissions ou sur nos plateformes pour bien montrer qu'avec de l'acharnement, on arrive quand même à améliorer la situation.
Alors, on essaye de faire passer des messages d'espoir. Malgré tout, dans certains contextes, on est là carrément en situation critique. Comme en témoigne dans l'Est de la RDC à Bounia, Ménélique, il a enregistré ce message sur notre répondeur WhatsApp. On l'écoute.
Bonjour, la RFI, priorité santé. Depuis la ville de Bounia, en Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, ma préoccupation tourne vers les défis d'accès aux soins des personnes handicapées dans les zones en guerre, comme la province de l'Ituri, où nous sommes, le Nord Kivu et le Sud Kivu, où il y a affrontement entre les parties à conflit, où ça ainsi les personnes handicapées à devenir de lourdes charges pour leur famille ou leur communauté. Elles sont souvent abandonnées et exposées aux dangers de toutes formes. Mais aussi, pendant la guerre, les structures sanitaires éprouvent d'énormes difficultés d'approvisionnement en médicaments et autres matériels, d'évacuation des personnes en besoin, voire même la carence du corps soignant. De ce qui précède, j'ai une seule préoccupation à l'éviter, à savoir comment peut-on protéger les soins aux personnes handicapées dans les zones en guerre. Merci.
Ça pourrait mériter toute une émission, hein, ce sujet, cette problématique que pose Ménélique, situation critique pour les personnes handicapées à Ouadramé. Une conclusion pour notre échange.
Mais on voit bien que l'accompagnement doit être pluridisciplinaire, qu'il faut des moyens financiers, qu'il faut des moyens humains. Et c'est vrai que dans cette situation critique se rajoute aussi le déplacement des populations qui rajoute une autre difficulté ou d'autres difficultés. Donc, c'est assez dramatique.
Assez dramatique. Jackie Vagnoni, faire évoluer la situation pour améliorer les prises en charge des personnes en situation de handicap. Là aussi, en conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire ?
Juste deux choses importantes. Déjà, il faut quand même éviter la suspicion de ne pas... Enfin, une suspicion qui est de ne pas accorder à la personne en situation de handicap de comprendre ce qui lui arrive et donc de s'adresser à elle, c'est-à-dire... Parfois, j'allais dire,
on parle d'elle à la troisième personne.
Voilà, on ne fait pas confiance, etc. Et donc, je pense que ça, c'est important. Je voulais dire aussi, alors, je ne parle pas d'accueil à l'hôpital, je ne dirais pas ça, mais par contre, quelque chose autour de l'accueil aux urgences, qui est vraiment là un peu complexe, parce qu'une personne qui attend 10 heures, 12 heures dans les couloirs de l'hôpital, c'est extrêmement, enfin, c'est compliqué.
Peut-être imaginer des dispositifs dédiés ou des exceptions dans l'exception, hein, des files prioritaires
Des files,
si on est capable de le faire à une caisse enregistreuse dans un supermarché, on devrait
pouvoir le faire
à l'hôpital. Voilà, c'était un petit peu café du commerce que je viens de dire, mais je l'assume totalement. Professeur François Genet, vous étiez d'accord avec moi, même si c'est un petit peu...
Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous, et pour conclure, alors tout d'abord, dans la perception du handicap, construire des structures accessibles, ça ne suffit pas. Quand on est handicapé, la charge mentale, ne serait-ce que le matin pour s'habiller, pour aller à un rendez-vous à telle heure, comment est-ce que j'y vais ? Est-ce que je prends les transports en commun ? Est-ce que je prends un taxi ? Si je prends le taxi et que ça ne marche pas, ou s'il y a une grève, ou s'il y a, etc. Tout coûte de l'argent, de la charge mentale, tout coûte de la préoccupation. Et donc, il faut qu'ils se lèvent à 4 heures du matin pour pouvoir être à un rendez-vous à 10 heures. Il faut que les professionnels de santé et les gens qui travaillent avec les personnes handicapées sachent ça. C'est-à-dire que c'est pas des gens juste comme nous qui s'habillent, hop, et qui sautent dans leur voiture pour venir. Et la deuxième chose c'est que je crois qu'on a tous pris conscience que la prise en charge du handicap, elle est multidisciplinaire, mais multidisciplinaire au sens la santé, le sport, les associations de patients, et probablement même à une démarche qui n'est pas juste centrée sur notre territoire francilien, national.
Au-delà de pluridisciplinaire, global.
Global. Je dirais global et holistique. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera tous ensemble à bénéficier bénéficier de l'héritage des Jeux.
L'héritage des Jeux, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous attendez, on disait bien sûr, il y a des restrictions budgétaires, etc., mais vous attendez quand même quelque chose là-dessus.
J'attends surtout un ressaut de la population et en fait d'une prise de conscience si on travaille tous ensemble, eh ben, on doit pouvoir, et notamment les opérateurs de terrain, on doit pouvoir apporter des solutions.
Les associations, mais pas que, comme on dit. Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à Priorité Santé. Merci. Au revoir. Avant de conclure tout à fait cette émission, on continue de vous faire découvrir les 10 finalistes du prix RFI Découverte. Et c'est à vous de désigner le lauréat 2025. Pour voter, vous retrouvez le lien sur notre page, la page Priorité Santé. La découverte du jour, c'est Striker, hip-hop guinéenne. Eh bien oui, c'est chez vous. Avec ce titre Mbadjo, on l'écoute tout de suite.
Be worried by your angong. Be in your mimunyo. Mimunyo rahono. Yet along on top of angong. Be worried bobo angong. Be in your mimunyo. Mimunyo rahono. Yet along on top of angong. Fotaco, bairi alla lando da notaco, mi muño taco, merne mape walo taco, mille mia fotaco, bairi alla lando da notaco, mi muño taco, merne mape walo taco, comi wowli wo, nuna naino lang, comi ma pori wo, nuna naino lang, sa yo mohan sala na kilang. Sa jo no go la tun fi yo dan ko lang Ala alkin dir be fo yo tan o lang Mi wulli be wulle iste ko sa go hang Honto wanda se la fin de yang Honto wanda le ki ande yang Yo ni ko hombo Nyam min talan dan ko lang Yo ni ko hombo Yo kan tala wala lang Yo ni ko hombo Mo san talan jan la lang Combo, will tinda never neang. Be wari mba jo angong, be ini yo mi munyo rahono, yete lang unto bobo angong. Be wari bobo angong, be ini yo mi munyo rahono, yete lang unto bobo angong. Bile mi afotako. Bairi ala lano dano taku Mi muño taku Berne mape walo taku Mille mia fo taku Bairi ala lano dano taku Mi muño taku Berne mape walo taku nene yo mingigi mata ulu yo Yulo ko hebi wo Koyo andi toko ala binduno Misuru no gorebe ambwe, kaberde bambeto Ande ande komi wali, kuhope gorondo tu
Striker Mbadjo, l'un des 10 finalistes du prix RFI Découverte. Pour voter, vous allez sur la page de l'émission et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louis Caledec, Talimpo et Victor Hull à la réalisation. Demain, on va parler du sepsis, cet emballement inflammatoire suite à une infection grave, cause majeure de mortalité dont on parle finalement assez peu, un risque notamment pour les sujets vulnérables, septicémie, choc septique, prévention, symptômes, prise en charge. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.